Le débat du jour.
Anne Souhaitemont.
Bonsoir, au menu du débat de ce soir, la Birmanie, car dans deux jours, ce sont 32 millions de Birmans qui sont appelés aux urnes, des élections parlementaires, provinciales, un scrutin sans précédent depuis 25 ans, un scrutin historique avant même d'avoir eu lieu, c'est en tout cas ce que disent certains, car les candidats sont nombreux, issus de plus de 90 partis politiques, et puis parce qu'il y a eu une campagne. Alors, 4 ans après la dissolution de la junte militaire, la Birmanie est-elle sur la voie de la démocratie? C'est le débat de ce soir. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir à mes côtés en studio Olivier Guillard. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes spécialiste de l'Asie, directeur de recherche à l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS. Et puis par téléphone, Maëlle Reynaud, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes analyste politique indépendant, spécialiste de la Birmanie. Vous avez travaillé avec plusieurs ONG en Thaïlande et en Birmanie depuis une dizaine d'années. Alors, Olivier Guillard, je voudrais commencer avec vous. C'est peut-être là le propre d'une campagne démocratique, d'un scrutin démocratique. Est-ce qu'on peut avoir des surprises dimanche ?
Écoutez, j'ai fait le tour avant de venir vous voir pour être à peu près à l'aise dans les tendances du dernier moment parmi une foultitude d'observateurs français, européens, asiatiques, d'outre-Atlantique. Et en définitive, tout le monde est à peu près, convient à peu près du même scénario, à savoir, nous ne savons pas exactement ce qui va se passer. Alors que nous observons cette campagne électorale se préparer donc minute après minute, que la feuille de route que déroule tranquillement la junte ou la post-junte birmane, on la voit, on la prépare. Et malgré toute l'attention accordée à ce thème qui est extraordinaire, vous l'évoquiez à maints égards du fait de sa dimension historique, nous ne savons pas exactement, si ce n'est que, selon toute probabilité, si le scrutin n'est pas entaché de certaines irrégularités ou de certaines bizarreries qui arrivent parfois en Asie, les forces démocratiques devraient faire un score très intéressant qui devrait leur permettre, normalement, d'arriver en position de force pour prétendre à occuper une certaine fonction.
Donc les forces démocratiques, pour être très concret, c'est la Ligue nationale de la démocratie, la LND, dont la chef de file est l'inoubliable Aung San Suu Kyi, figure vraiment très importante de la lutte pour la démocratie en Birmanie. Maëlle Reynaud, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'on va avoir des surprises dimanche? Est-ce qu'il y a un vrai suspense?
Oui, il y a un vrai suspense, et ça à plusieurs niveaux. D'abord, la première chose, c'est que je suis d'accord sur le fait que la Ligue nationale pour la démocratie a toutes les chances d'emporter le scrutin. Ça, c'est la première des choses. La seconde, c'est qu'il y a quand même une inconnue sur le score de l'USDP, le parti de l'ancienne junte au pouvoir, parce que malgré tout, elle a encore des supporters, et l'USDP pourrait gagner, notamment s'il y a effectivement de la fraude. Ensuite, il y a des partis, par exemple, il y a un nouveau parti assez nationaliste, bouddhiste, dur, assez près des organisations bouddhistes qui ont créé pas mal de soucis pour la minorité musulmane. Et puis, il y a les partis des minorités ethniques. Donc voilà, il y aura un mix de tous ces partis politiques qui devraient entrer dans les différents parlements qui vont être élus dimanche. Donc effectivement, on ne sait pas qui va gagner exactement, mais en tout cas, on aura un mix de la Ligue nationale pour la démocratie, les partis ethniques, et le parti des anciens généraux au pouvoir.
Donc Olivier Guillard, si je comprends bien, un transfert de pouvoir entre le parti issu de la junte vers la Ligue nationale pour la démocratie, c'est possible, ce serait historique, c'est la fin d'une lutte.
Bien sûr, et nous prenons un petit peu une dimension qui est intéressante aussi. Ce n'est pas comme si cette ouverture vers la démocratie, en tout cas ces réformes, cette démarginalisation ait été le fruit d'une volonté populaire forte ou en tout cas menaçante, un petit peu comme les choses se sont passées en Tunisie ou en Égypte pendant le printemps de l'ère arabe. Là, donc, tout est déroulé depuis le haut, à savoir donc depuis l'ancienne junte, qui a dû se dire à un moment ou un autre, au tournant, on va dire, de la fin des années 2000, peut-être devrions-nous, pour assurer notre pérennité dans le paysage politique et économique, parce que ça a son importance birman futur, peut-être devrions-nous prendre les choses en main plutôt que d'être bouteur du pouvoir violemment un jour et tout perdre. Donc oui, a priori, demain, nous aurons une coloration des assemblées qui sera très différente. Nous aurons un mode de management des affaires nationales qui ne seront plus ni totalement militaire, ni totalement militaro-militaire civil, mais qui devrait être donc une équation tout à fait inconnue, historique et dont on a du mal pour l'instant à percevoir le mode de fonctionnement demain. Mais c'est plutôt encourageant.
Alors, il y a aussi un autre fait qui est intéressant dans ce scrutin à venir, hein, dimanche, Maëlle Reynaud, c'est le fait qu'il y ait, je crois, 92 partis qui sont en lice dimanche. Est-ce que c'est le signe d'une vraie offre politique ?
Oui et non. D'abord, la première des choses, c'est qu'il faut se rappeler que dans le sous-continent indien, par exemple en Inde proprement dite, le nombre des partis est souvent comme ça très très grand, et ça veut dire qu'il y a un fourmillement démocratique, mais ça veut dire aussi qu'il y a une certaine désorganisation, puisque le fait d'avoir un plus petit nombre de partis politiques veut dire qu'ils sont aussi souvent plus soudés, qu'ils réunissent plus de gens, etc. Donc on va avoir une offre. Malheureusement, il y a quand même une inconnue là-dedans assez importante, c'est celle des programmes politiques de ces partis. Parce qu'avoir beaucoup de partis politiques, c'est bien, mais avoir des partis politiques qui ont des vraies plateformes politiques à proposer, avec des vraies idées sur les lois à voter une fois qu'ils seront au Parlement, ça c'est une autre question, et là il y a vraiment des questions à se poser en Birmanie.
Olivier Guillard, on a eu des vrais programmes politiques qui ont été débattus pendant la campagne?
Il y a eu, peut-être pour rebondir un petit peu sur les propos que je partage de M. Reynaud, il y a aussi une chose qu'il faut dire, donc cette galaxie de l'historique encore de partis politiques en Birmanie est aussi assez artificiel. Il y a les grands partis qui ont leurs ambitions, qui seront représentés d'une façon très solide dans les diverses assemblées nationales, chambres hautes, chambres basses et chambres régionales. Il y a aussi cette galaxie de petits partis qui ont été créés, c'est ce qu'on appelle les proxies, donc des petits partis dont on ne dit pas véritablement les noms, qui vont cacher des intérêts militaires, qui vont éparpiller un petit peu le vote pour avoir une dilution du pouvoir de certaines formations. Sur les 90 partis, il y a peut-être 92 actuellement, et il y en a peut-être 7 ou 8 qui sont très sérieux, on va dire. Les autres sont dénient un petit peu leur intérêt. Ils ont été créés pour des intérêts plus locaux, des intérêts plus particuliers que pour des intérêts nationaux. Donc là, il y a aussi.
Mais finalement, ça existe dans plein d'autres démocraties. Oh, l'éparpillement des partis politiques, c'est aussi le signe d'une certaine vitalité.
Bien sûr, déjà, quand on a le droit de le faire, nous sommes en Birmanie, ça n'allait pas de soi. Qui lui dit, il y a une petite dizaine d'années, qu'on serait là de viser dans notre bureau un vendredi soir en disant nous allons observer des élections pratiquement normales comme ailleurs, avec un résultat qui sera peut-être conforme aux attentes, des aspirations. Il y a très peu, M. Reynaud, je pense, tout comme moi-même, il y a 10 ans, nous étions certainement d'imaginer un résultat pareil avant même que le scrutin ait lieu en 2015.
Vous confirmez, Maël Reynaud, n'aurait jamais imaginé ça il y a 10 ans?
Non, c'est évident. Même il y a moins que ça, il y a 8 ans, en 2007, il y a eu la fameuse révolution Safran. Je vous rappelle que l'armée avait tiré dans la foule notamment des moines qui manifestaient. Je veux dire, à ce moment-là, personne n'imaginait que la Birmanie connaîtrait une transition vers la démocratie 4 ans plus tard.
Alors, y a, avant d'en venir aux irrégularités, hein, puisqu'on va aux craintes d'irrégularités, on va en parler. Je voulais vous poser une question sur la participation et sur l'état d'esprit des Birmans. On l'a dit, donc 25 ans qu'il n'y a pas eu un scrutin aussi libre. Olivier Guillard, est-ce que les Birmans sont prêts à voter?
Alors, nous le verrons sous peu, ça c'est la première observation. Il y a diverses façons de prendre la question. Vous avez, si on prend le degré de participation populaire aux meetings électoraux, par exemple Aung San Suu Kyi, donc là ce sont des grands messes. Quand vous interrogez donc les gens qui se parent de rouge et de jaune, les couleurs de la démocratie dans le pays, vous avez donc, j'ai eu la chance d'assister donc le mois dernier à deux grandes messes de ce type. Donc vos interlocuteurs sont venus, entre autres choses, par curiosité, parce qu'on voit la dame, parce que la dame ne passe pas tous les jours dans toutes les provinces du pays, dans tous les États. Vous avez ceux qui vous disent bien sûr qu'on va voter naturellement, puis d'autres qui vous disent oui, mais après tout, en définitive, on sait pas trop s'il faut vraiment se fier à ce scrutin, si on nous ouvre tant les portes que cela. Est-ce que le résultat va vraiment changer? On craint toujours que les militaires ou l'ancienne junte n'aient toujours les moyens de...
En fait, on croit presque pas que c'est possible que ce soit libre,
À tel point, voilà. Et puis vous avez donc les pragmatiques, ceux qui ont peut-être une génération de plus, qui se disent nous avons vécu 90, nous étions pleins d'allants. La Ligue nationale pour la démocratie était donnée gagnante. Elle a remporté les scrutins à l'époque, 80 à 85% des voix. Et le résultat a tellement fait mal à la sensibilité de la junte qu'elle n'a pas reconnu le résultat, que nous sommes repartis pour un quart de siècle ou presque. Donc il y a une certaine réserve des Birmans. Il y a beaucoup d'espoir et il y a le pragmatisme qui amène un petit peu une certaine retenue.
Alors, Maël Reynaud, je voudrais faire appel à votre capacité à travailler avec des ONG. C'est votre expérience aussi en Birmanie. Après des années d'élections truquées, des associations se sont mobilisées, y compris internationales, des organisations, pour mettre en place ce qu'on a appelé dans la presse des ateliers démocratie. C'était quoi? C'était pour apprendre, aider les Birmans à bien voter?
Exactement. Là aussi, il y a eu un foisonnement. Alors, il n'y a pas que les ONG internationales. Hein. D'abord, il faut le dire, il y a surtout les ONG birmanes. Il y a beaucoup d'ONG birmanes qui se sont créées ces dernières années. Et là, sur les deux dernières années, notamment, des gens qui veulent faire du monitoring d'élections, donc qui veulent surveiller les élections et qui ont effectivement mis en place des formations. Donc, on explique d'abord la première des choses, c'est qu'on explique la constitution aux gens, puisque quand même, il faut la connaître pour être en mesure de comprendre exactement ce pourquoi on va voter. voter, puisqu'il y a trois élections qui vont avoir lieu dimanche, pour la Chambre haute, pour la Chambre basse et pour les chambres régionales. Et ensuite, il faut expliquer aux gens effectivement comment voter physiquement, comment s'enregistrer, comment faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir de fraude en votre nom, c'est-à-dire que vous soyez bien enregistré et que vous puissiez voter le jour J.
Oui, vous disiez, pour voter, il faut écrire, utiliser un tampon, et ça a longtemps été l'apanage de ceux qui votaient mais qui pouvaient.
C'est ça.
Alors, allez-y, continuez, je vous en prie.
Non, vous avez raison, c'est tout.
La Birmanie est-elle sur la voie de la démocratie ? C'est le débat de ce soir sur RFI avec nos deux invités, Maëlle Reynaud, que vous avez entendu à l'instant, et puis Olivier Guillard. Alors, je voudrais qu'on en vienne à ces craintes sur les irrégularités du scrutin, notamment, vous l'avez mentionné, Maëlle Reynaud, sur ce qui concerne les listes électorales. Oum Sommit supervise un petit bureau de vote à Rangoon. Il est au micro de notre envoyé spécial Rémi Favre. Écoutez.
Il y a environ 10 000 électeurs dans notre quartier, mais sur la liste électorale, il y a plus de 20 000 noms parce que nous avons utilisé les données erronées du département de l'immigration.
Oum Sommit n'a pas ôté de la liste les noms des personnes décédées ou qui ont déménagé, car il n'a pas reçu les instructions en ce sens, dit-il. La commission électorale au niveau national admet des erreurs qu'elle explique par de l'incompétence.
Alors, des erreurs sur les listes électorales, incompétence, Olivier Guillard, comme dans d'autres pays démocratiques, ou vrai risque ? Est-ce qu'on arrive à placer le curseur ?
Ce qu'on a coutume de penser en étant raisonnable. Nous sommes ici dans une logique de pays d'observateurs étrangers qui ont l'habitude que les listes électorales soient à peu près convenables, qu'elles soient à jour, etc. Il n'empêche qu'on observe aussi de temps à autre, de par chez nous, en Europe occidentale, ce genre de choses. En Birmanie, donc, la façon dont nous apprenons les choses est de se dire, est-ce qu'elles seront raisonnablement préparées, raisonnablement conduites, et est-ce que les parties prenantes, notamment ceux qui pourraient être parmi les perdants potentiels, est-ce qu'ils vont avoir une capacité, là on pense aux hommes en uniforme ou en ex-uniforme, auront-ils la capacité ou la fierté d'accueillir cette défaite ou ce revers qui, évidemment, pas, quand on est militaire, un revers, c'est jamais particulièrement bienvenu en Birmanie, fut-il électoral, moins. Donc, ce que l'on sait, c'est que certaines choses ont été faites au-delà des espoirs que les observateurs étrangers avaient placés dans la capacité de la commission électorale à faire son travail. J'étais le mois dernier à Yangon et j'étais donc en train d'interviewer, de m'entretenir avec les personnes du Carter Center, donc une des deux organisations internationales étrangères, donc accréditées pour ce genre de choses. Et même si leur propos était un petit peu dur, mais les deux interlocuteurs qui pilotent ce projet me disent, écoutez, nous avons jusqu'à ce jour, nous avons une capacité d'écoute et d'échange avec la commission électorale que nous ne soupçonnions pas. Le travail n'a pas été fait dans la règle de l'art, certes, mais au-delà de ce qu'on a estimé. Donc le verre est à moitié plein, à moitié vide. On craint quand même que le côté moitié vide ne pénalise, si les résultats sont mauvais pour l'ancienne junte, la véracité, la régularité des résultats. Mais nous sommes une fois encore pas là. Nous verrons bien.
Alors, Maëlle Reynaud, votre analyse sur ce point, des listes raisonnablement préparées ou des listes peut-être truquées ?
Non, mais justement, vous revenez sur le terme de raisonnablement qui a été utilisé par l'autre intervenant.
Olivier Guillard.
Je suis tout à fait d'accord avec ça. La question de ces élections, c'est où est-ce qu'elles vont mener le pays. De manière générale, il s'est passé la même chose en 2010. Il y a eu des élections qui étaient beaucoup plus problématiques que ne vont l'être celles de dimanche, vraisemblablement. N'empêche qu'elles ont amené
beaucoup
à la situation
plus problématique,
actuelle.
Vous voulez dire, pour le parti qui est au pouvoir?
Non, elles ont posé beaucoup plus de problèmes dans le sens où elles étaient beaucoup moins libres et où elles ont été truquées assez largement, et ce qui a amené à une victoire de l'USDP, le parti qui est au pouvoir à l'heure actuelle. Les élections de dimanche devraient être plus libres, c'est ce que je veux dire. Il n'empêche que les dernières élections avaient quand même amené à la situation qu'on connaît aujourd'hui, et c'était un progrès. Et de manière générale, on veut voir un nouveau progrès avoir lieu après ces élections. Et si les listes ont été construites raisonnablement, pour reprendre ce terme, si les élections sont libres de façon raisonnable, alors on aura une représentation, elle aussi, raisonnable de ce que les Birmans voulaient réellement au sein des parlements. Et là, on pourra avoir une prochaine phase de 5 années, les prochaines élections générales, qui pourraient voir le pays continuer à aller dans le bon sens.
Alors, il y a les listes électorales qui peuvent poser question, et puis il y a la crainte exprimée par certains du bourrage d'urnes. Est-ce que là, on a aussi des éléments? Comment ça se présente, Olivier Guillard?
Bon, on va là aussi être positif pour l'instant avant d'avoir des choses à tirer à boulet rouge. On a, prenons quelques ordres de grandeur. Le pays a 55 millions d'individus sur un territoire qui est à peu près aussi grand que le territoire français. Il y a 10 000 personnes qui ont été autorisées, majoritairement birmanes, à observer ces élections. Il y a à peu près 200 observateurs étrangers, donc de l'Union européenne et du centre Carter notamment, qui vont pouvoir essayer de se déplacer d'une circonscription à une autre. Si l'on voulait vraiment que les choses se passent dans la règle de l'art... Donc
on les aurait pas autorisés, c'est ce que vous dites.
Je dis que même 10 000 observateurs sur... Il y a 40 000 bureaux de vote. Vous savez que lorsque... Les craintes ne sont pas le jour du scrutin, c'est lorsque les urnes sont fermées, que l'on commence à dépouiller tout cela, et qu'on fait ça loin des caméras, loin des yeux, etc. Là, tout est possible. Donc on peut craindre une fois encore que les choses se fassent. Il y a possibilité matérielle de trucage, toujours. Mais tout dépendra surtout de... semble-t-il, de là où les militaires et le parti de l'USDP ont placé le curseur de l'acceptation de leur défaite, parce que défaite électorale, il y aura. S'ils prennent une claque immense, ils n'auront pas la candeur d'accepter une défaite pareille. Donc on pourra se dire que là, il y a un delta probablement fort vers un trucage à la hausse. On n'en est pas encore là. Si l'USDP et les partis donc, qui sont relativement proches ou en coalition avec cette formation font un score qui n'est pas si minable que ça. Mais écoutez, là, on peut penser qu'on acceptera, on courbera la Chine et on démontrera à la communauté internationale, nous sommes des acteurs responsables, reconnaissons la défaite, nous avons initié la transition démocratique et nous reconnaissons la défaite. C'est donc pas trop mal parti pour notre pays.
Oui, parce que le président a dit qu'il reconnaîtrait les résultats des élections, quels que soient ces résultats. Maëlle Reynaud, est-ce qu'on peut parler d'un scrutin démocratique alors qu'on sait qu'un quart des sièges, qu'un quart des députés vont être, des parlementaires vont être nommés par l'armée, ils gardent cette prérogative?
Ouais, d'abord je voudrais revenir une petite seconde sur le point précédent sur la fraude. Moi il y a deux choses différentes. Au niveau national, je crois réellement que le gouvernement tente d'organiser des élections libres. Après, au niveau local, il y a des gens qui ont malgré tout envie d'être élus et des gens qui ont l'habitude d'être au pouvoir depuis des décennies, et à eux il faut faire beaucoup moins confiance qu'au gouvernement central pour laisser les élections se dérouler de façon libre. Ensuite, sur les 25% de l'armée, moi je pense qu'il faut prendre le contre-pied complet de ce qu'on pourrait penser logiquement sur cette question. Avoir 25% de députés de l'armée sélectionnés directement par l'armée et donc pas élus, est-ce que c'est une si mauvaise chose que ça? On a une armée qui est toute puissante en Birmanie depuis 60 ans. Il faut bien l'avoir quelque part au sein du
nouveau pouvoir. Une sorte de continuité, c'est ça?
Exactement. Donc moi je fais partie des gens qui pensent que d'avoir ces 25% de soldats pour l'instant, c'est que c'est pas quelque chose qui devra durer trop longtemps, mais au moins pour les 5 années à venir, il vaut mieux avoir l'armée présente au Parlement plutôt que de l'avoir être en permanence tenté de faire un coup d'État.
Olivier Guillard, sur cette question, est-ce que vous avez la même analyse?
Je suis assez proche de cette analyse, en ce sens qu'en définitive, l'armée elle est vue comme un élément de façon incontournable de la société. En Birmanie, il y a autant de moines que de militaires. Bon, ils font partie du paysage. Ils font partie du paysage politique depuis, comme le rappelait Maëlle à l'instant, depuis 60 ans. Et puis surtout, pourquoi en faire un ennemi alors qu'on peut en faire un partenaire indispensable? Et n'oublions pas qu'au-delà du côté politique, donc l'armée, donc par ses longues décennies au pouvoir, a aussi largement vascularisé un petit peu ses intérêts, jusque dans les intérêts économiques du pays. Les militaires sont tout puissants au niveau politique, au niveau sécuritaire, mais également au niveau économique. On ne peut pas se passer des militaires du jour au lendemain comme ça, donc autant les associer directement par la voie des textes légaux au pouvoir. Après tout, c'est plutôt une logique assez fine.
Et sur ce que disait Maëlle Reynaud à propos de la fraude qui ne serait pas celle d'un système, mais peut-être de certaines personnes qui sont au pouvoir, là aussi, vous partagez cette analyse?
Ce sont les craintes. Les craintes, elles ne sont pas exprimées, par exemple, en termes de fraude dans la capitale, là où se concentre le centre urbain avec le plus de votants. Donc ce sont vraiment sur les provinces les plus satellisées, donc celles vers lesquelles il y aura peu d'observateurs. Et là, effectivement, les réactions sont plus des réactions qui sont locales et d'orgueil que d'intérêt national. Donc si crainte il y a quant à deux possibles, une fois encore, peut-être que la fraude sera un petit peu comme bien moins importante que dans le récent scrutin en Afghanistan et que le vainqueur des urnes aura mérité largement donc ses sièges et ses circonscriptions. Mais c'est plutôt au niveau local que les craintes sur lesquelles l'intérêt des observateurs étrangers se focalise. Il y a de grandes chances qu'il faille être un peu plus prudent sur les résultats au niveau local, c'est sûr.
Et nous le verrons, nous aurons des résultats, alors sans doute pas dimanche, hein, dans les jours qui suivent, puisque je rappelle que c'est donc dimanche que se tiennent ces élections en Birmanie. C'est la fin de ce débat. Merci beaucoup à nos deux deux invités, Olivier Guillard à mes côtés en studio, par téléphone Maëlle Reynaud. Merci également à Florence Pons, à Boris Vichit qui réalise cette émission. Le prochain débat, ce sera lundi à 20h40, 19h40 temps universel. Nous parlerons de l'économie française. La reprise est-elle là? Tout de suite, c'est le journal en français facile avec Edmond Sadaka et Zéphirin Quadio. Bonne suite de programme sur RFI.